Je suis née dans cette maison. Ma mère s'appelait Jeanne, comme moi, ainsi que mes sœurs. Je suis allée à l'école et j'ai appris la broderie.
Silence !
J'ai aidé aux travaux ménagers. J'ai commencé à tenir mon journal très jeune, comme il serait souhaitable de le faire pour toutes les jeunes filles bien élevées. Je m'exprime parfois dans ma langue maternelle, l'argentine, souvent dans ma langue maîtresse, la française. Mon imagination me vient de cette partie de la mémoire qui est molle et particulièrement sensible aux flèches cachées dans les phrases anonymes. Voyageur et voyeur, mon expression prend la forme de scènes fugaces, telles l'amour sous un réverbère ou la mort fatale. Nourri de sensibilité du Rio de la Plata, j'en garde l'exiguïté des décors. Les voyages m'ont appris que peu de vêtements bien assortis font l'assurance et le crédit de l'exilé. Exilé. Si jamais je devais dire quoi que ce soit sur l'exil, je me garderais bien d'écrire à la première personne.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Royale, elle trône en scène, tantôt soliloquant, perdue dans ses souvenirs, égarée dans un monde étrange, tantôt invectivant un interlocuteur qu'elle seule peut voir. Comme la Winnie de Beckett, elle va devoir affronter encore une belle journée, s'acheminant vaillamment, une fois ses tâches domestiques accomplies, vers la fin du jour, qui sera aussi, elle le sait, la fin de sa vie. Son arrogance tranquille et ses roucoulades enfantines la font parfois ressembler à Marguerite Duras. Mais sa langue, charnelle, heurtée, inventive et chaloupée, la place sans équivoque dans l'hémisphère sud, du côté du Rio de la Plata, là où Buenos Aires fait face à Montevideo, paradis perdu d'une enfance insouciante devenue durant une effroyable décennie le cimetière des disparus de la dictature militaire. Copie, l'enfant terrible de nos années 70, dessinateur talentueux, inventeur de la femme assise des débuts du Nouvel Observateur, acteur et auteur de théâtre déjanté, baroque et flamboyant, Copie est de retour sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris avec La journée d'une rêveuse, pièce écrite en 1968 pour Georges Lavelli. C'est sa compatriote et grande amie Marie-Lou Marigny qui l'incarne dans ce spectacle qu'elle a voulu et imaginé avec Pierre Maillet, en le retravaillant pour un seul personnage, la rêveuse, et en le tricotant avec un texte autobiographique peu connu, écrit en 1984 par Copie, intitulé « Rio de la Plata ». Sur scène, lui offrant un bel écrin musical, jouant parfois le contrepoint, un pianiste, Laurence Le Hérisset, arrière-petit-fils de Méliès et accompagnateur de ses films restaurés, donne la réplique en note à une diva baroque survoltée. Marie-Lou Marigny est aujourd'hui l'invitée de l'humeur vagabonde.
Pequeño paria el niño que de la sombra nació, juega el juego de la sangre para matar su dolor. No conoce de alegrías, de hielo es su corazón, de terror es su inocencia y de locura su amor. No necesita el alivio, no lo amedrenta el rencor, porque nunca tuvo abrazos, porque le duele el sudor frío de sus manos, que la muerte al fin calmó. Pequeño niño perdido, la
la soledad te crió, mamaste de ríos grises la oscuridad que parió, mamaste de ríos grises la oscuridad. Para el niño, un consuelo por favor, que tiene fría su alma, ay que le duele el amor. Un consuelo para el niño, un arrullo por favor, que tiene fría su alma, ay que le duele el amor. Mamaste de ríos grises la oscuridad que parió, mamaste de ríos grises la oscuridad, mamaste de ríos grises, mamaste de ríos grises, mamaste de ríos grises, mamaste de ríos grises. Mamaste de ríos
l'intérieur d'une maison à l'intérieur d'un parc. Dans le parc, un arbre de melon. Dans la maison, un lit, une table, deux chaises, une armoire, un paravent. Sur l'armoire, une valise. Encore une journée. Le soleil, la terre, ma chaise. J'ai tout pour être heureuse. Et merde.
Bonjour Marie-Lou Marini. Vous-même, vous riez de vous entendre. C'est vrai que c'est un début assez étrange, mais c'est du copie dans le texte. Il vous manquait copie parce que c'est vous qui avez demandé à Pierre Maillet de faire quelque chose avec copie pour la scène.
Oui, puisque lui, il avait travaillé avec Martial Difonsovo et Lise Vigier sur copie très profondément et très intensement. Et c'est lui qui a tissé ce spectacle, qui a tissé ces deux textes. Et je trouve qu'il l'a fait avec une sensibilité énorme parce que ce sont deux textes qui font comme un miroir. Si dans l'inconscient il y avait des miroirs, et ce miroir reflétait d'où vient le monde, l'inspiration, la folie, ce que les gens appellent la folie de copie. Ses sources, non, d'où il va puiser son inspiration et avec ses souvenirs.
Mais en même temps, c'est très étonnant d'avoir eu l'idée de tisser ces deux textes parce que leur écriture, leur langue est très différente. Le théâtre de copie, on vient de l'entendre, c'est fou, c'est baroque, c'est mélancolique, c'est surprenant, ça tient aussi d'un peu presque du guignol. Il y a beaucoup de il faut que le corps l'incarne aussi.
Oui.
Tandis que ce texte, Rio de la Plata, qui était une présence préface à un livre qu'il n'a jamais écrit, qui a été très peu connu, en fait, même parmi les gens qui s'intéressent à Coppi. C'est un texte beaucoup plus intime, avec une langue apaisée. Et c'était pas simple de tricoter les deux ensemble.
Non, mais je crois qu'on peut se dire, en écoutant La Rêveuse et en ayant lu ou en ayant écouté Le Rio de la Plata, ah, cette image vient peut-être de son enfance à Montevideo. Ah, ici, c'est toute cette partie où il transportait d'armes pour faire la révolution avec son père. Parce que il faut dire que la vie de Coppi a été très riche et très nourrie par des éléments très, très divers. Et donc, ça se reflétait après dans son œuvre.
Mais d'ailleurs, c'est très intéressant, Marilo Marini, d'entendre ce Rio de la Plata, parce que ça nous donne des clés, comme vous venez de le dire, pour comprendre d'où vient Coppi, et donc d'où vient l'écriture, la folie de Coppi. Parce que lui-même, quand les journalistes posaient des questions qui s'éloignaient trop de ses textes, il ne disait jamais rien sur lui.
Je suis né en 1939 en Argentine. Je m'appelle Raoul Damonte. On m'appelait Coppi quand j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi. J'écrivais du théâtre quand j'avais 15 ans. C'était très mauvais. J'ai vécu en France entre 10 ans et 15 ans. Et puis je suis revenu en France à 22 ans. Je ne savais pas comment gagner ma vie. Je me suis mis à dessiner et à vendre des dessins dans la rue. Et puis j'ai commencé à publier des dessins dans le Nouvel Observateur. Et j'ai recommencé à écrire du théâtre il y a 3 ans. Voilà. Je pense que quand je dessine, je fais de toutes petites pièces de théâtre.
Marilo Marini, c'est vrai que Coppi a dû passer par le dessin pour faire du théâtre, qui était dès le départ ce qu'il voulait faire. Il dit, j'écrivais des pièces de théâtre très mauvaises, mais oui. En fait, c'était vraiment ça, sa vie jouée, ses propres textes aussi, se déguiser et écrire du théâtre.
Oui, il a commencé à écrire, comme il dit, dans le texte, à partir de 10 ans. Et en plus, il y a quand même quelque chose qui vient de loin pour alimenter ce désir aussi de faire du théâtre. Sa grand-mère, qui est un personnage très important dans sa vie, écrivait du théâtre. Et sa grand-mère était anarchiste et mère célibataire et s'est mariée avec son grand-père en ayant déjà un enfant. Il était un personnage absolument fantasque et l'a beaucoup inspiré. Et presque toutes les mères dans ces pièces, ces mères complètement terribles et pas conventionnelles du tout, et sont inspirées en fait de sa grand-mère. Mais le désir de Coppi, le premier désir de Coppi, c'était le théâtre. Par exemple, en regardant La Femme assise, on voit, comme vous dites, qu'il écrit de petites pièces de théâtre avec ses dessins. Moi, ce qui me fascinait quand j'ai travaillé sur La Femme assise, c'était justement les cadres où il ne dit rien. On sent que La Femme assise pense et qu'il y a tout un monde qui est en train de se réveiller là. Et ça nous met, à nous, spectateurs, dans une situation active, non? Et je crois que, justement, Coppi, dans le théâtre, où il n'y avait pas les cadres, mais il y avait aussi le silence, c'est un agitateur d'idées. C'est quelqu'un qui, avec son théâtre, il voulait basculer une certaine mollesse et une certaine hypocrisie. Et il était très mordant, très acide vis-à-vis de ça.
Mais vous parlez de La Femme assise qui a enchanté quand même pas mal d'années pour les lecteurs du Nouvel Observateur, qui était quelque chose de complètement différent. On n'avait jamais vu ça. Et c'est vrai que ça faisait réfléchir, réagir surtout, parce que Coppi, ce qu'il aime avant de faire réfléchir les gens, c'est de les faire réagir à ce qu'il dit, contre, pour.
Exact.
Et donc ça provoque quelque chose. On va l'écouter parler en 1968. justement sur la journée d'une rêveuse, qui est au fond presque la transposition à la scène de sa femme assise.
C'est une femme qui vit sa vie qui est conditionnée comme une journée. Il y a des horaires pour tout. Il y a l'heure de se marier, l'heure d'enfanter, l'heure de prendre le thé avec quelqu'un qu'elle identifie avec tout ce qu'elle a de spirituel, là, qui raconte un peu son enfance, sa vie. Et l'heure de mourir, il y a l'heure du petit déjeuner, l'heure de la soupe du soir. Et tout ça est entremêlé. La vie est conditionnée comme une journée, la journée est conditionnée comme une vie. Elle n'invente rien, elle ne rêve même pas, elle ne rêve jamais. Elle n'a pas le temps, tout lui arrive du dehors. C'est une histoire d'une vie quand même, ou une histoire d'une vie pas vécue, ou une histoire d'une vie vécue, je ne sais pas.
On a pu vous accuser de misogynie.
Ah bon ?
Oui.
Moi, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le personnage. Oui, en fait, elle n'est pas tellement généreuse, elle n'aime pas tellement son mari. Elle aime son fils. Je ne connais pas très bien le personnage, à vrai dire.
La chute est belle.
La chute est merveilleuse.
Et on entend ce rire étrange de copie au milieu,
oui,
qui est absolument formidable.
Ça m'a beaucoup touchée parce que j'ai reconnu ce...
Alors, il y a un livre sur vous, Marie-Lou Marini, qui vient de sortir, qui est signé d'Odile Quirot. C'est un très joli livre, très bien écrit en plus, passionnant sur vous, votre parcours, vos origines, sur l'Argentine, sur la France, puisque ça s'appelle aussi Chronique franco-argentine. Et dans ce livre, vous parlez de Copy, dont vous avez été amie, et vous en parlez comme d'un personnage du Gréco, avec une élégance un peu désuète, distante et douce. C'est étrange parce que on le voit plutôt comme un personnage baroque, il aimait se travestir, il était un peu fou, il faut bien le dire. Comment est-ce que vous le voyez comme ça, en personnage justement avec une élégance discrète?
Il se travestissait ou déstravestissait sur scène. On se souviendra toujours de Loretta Strand tout nu peint en vert.
Sauf une partie qui était rouge.
Sauf une partie qui était rouge, c'est une partie qu'on laisse imaginer aux auditeurs. Voilà. Mais Copy, lui, dans la vie, était un personnage d'ailleurs d'une élégance comme il s'habillait. Et aussi, il avait une façon d'être avec les autres qui était élégant et aussi avec une distance respectueuse. C'était pas quelqu'un qui allait se jeter dans vos bras avec des signes d'affection énormes. C'était toujours des petits gestes, des petites attitudes vis-à-vis de vous pour une tendresse.
C'était quelqu'un de mélancolique aussi.
Oui, mais il mettait un voile sur cette mélancolie, il mettait un voile d'humour et d'ironie, un peu à l'anglaise, un peu l'humour argentin a beaucoup d'humour à l'anglaise et beaucoup d'humour juif, je trouve. Et Copy avait ça. Il savait mettre la distance et en même temps, c'était clair qu'il vous acceptait et qu'il vous aimait. Parce que quand il ne vous aimait pas, c'était très clair aussi. Il pouvait être extrêmement violent dans sa langue. Et comme je crois qu'une langue peut caresser, peut châtier, peut frapper, Copy pouvait être vraiment très meurtrier dans sa façon.
Vous êtes connu en fait en exil à Paris, avec toute la bande d'Alfredo Arias.
Oui.
Vous ne vous étiez pas rencontré, même si vous connaissiez son existence, et sans doute lui la vôtre aussi, Marie-Lou Marini, en Argentine. Mais vous aviez tous des façons différentes de vivre l'exil, je pense. Lui se méfiait beaucoup de ce mot d'exil, d'ailleurs.
Oui.
En fait, parce que c'était quelqu'un qui avait toujours traversé les frontières, voyagé, il ne s'était jamais, à part la maison d'enfance à Montevideo, il n'y a pas eu un endroit où il se soit vraiment senti arrivé chez lui.
Non, il disait qu'il était un Argentin de Paris. Et il se sentait bien. Il pouvait être partout. Il avait ses dons d'adaptation et en plus, depuis son jeune âge, il a été confronté à cette situation de devoir s'exiler, de devoir laisser la maison natale, le pays. Et donc, il avait cette fluidité pour être présent dans des endroits très divers. Mais lui, vis-à-vis de ce que signifie l'exil comme mot avec un majuscule et le poids de la nostalgie et les déchirements et tout ça, il le rejetait. Il ne voulait pas rester dans le passé, il ne voulait pas rester dans la blessure de cet exil et de cette émigration, même s'il l'avait. Parce qu'il était un être tellement créatif et réactif que ce qu'il voulait, c'est de cette vécue d'exil et de vagabondage dans le monde, créer, donner corps à une œuvre. Parce que je crois que Coppi a cette faculté de concrétiser l'abstraction. Il peut donner un corps à une idée, à une sensation, à un sentiment d'une façon très directe, très frontale. Bien sûr, avec des images baroques et avec des images complètement disjonctées pour une logique cartésienne.
Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce spectacle qui s'appelle « Journée d'une rêveuse et autres », parce qu'il y a ce texte « Rio de la Plata », justement lorsqu'on a l'impression de perdre pied, parce que cette rêveuse, elle nous laisse parfois dans des zones où la raison se heurte un peu à l'impossible, donc on est un peu... Et puis il y a à ce moment-là le texte de « Rio de la Plata » qui arrive dans la journée d'une rêveuse et qui vient éclairer un peu la zone de confort pour nous.
Et maintenant, écoute-moi bien. L'Argentin, dont l'histoire est contemporaine du roman, se plaît à la découper en chapitres précis, au titre redondant tel « Eva Perón, les mères des disparus, la guerre des Malouines, qui leur font bon an, mal an, une place respectable dans les journaux du monde entier. Le détachement et l'ironie avec lesquels je pense au Rio de la Plata, qui est après tout mon berceau, sont récents. C'est pendant mes années d'interdiction que j'ai le plus souvent écrit en argentin, et toujours des grands drames. La mort de mes frères, la persécution de quelques proches de ma famille m'avait fait imaginer le Rio de la Plata comme un purgatoire auquel je trouve encore une vague culpabilité d'avoir échappé. Sans une égratignure, si ce n'est celle de l'âme.
Stop.
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
Nous passions 6 mois de l'année à courir entre les vagues en compagnie d'une famille de chiens. Pour suppléer à l'éducation plutôt paysanne qui nous donnait les bonnes uruguayennes, nos parents nous poussaient à pratiquer des métiers artistiques. Chez nous, il y avait une bibliothèque importante, un atelier de peinture et sculpture, un four à céramique. Mon argent de poche dépendait de mes prouesses littéraires, quoique moi je préférasse les dessins humoristiques que mon père abhorrait. Un sonnet bien tourné m'a valu à 10 ans une bicyclette, avant que mon frère Jorge ne découvre que j'avais plagié 2 vers de Garcia Lorca. Pendant que ma mère sculptait des cadres pour le miroir en argile et que mon père faisait de la peinture au couteau ou à l'huile, moi, j'écrivais des laborieuses pièces de théâtre inspirées d'Eugène O'Neill, que mon père vénérait. Et mon frère Juan Carlos dessinait à moitié couché sur le large trottoir devant chez nous, entouré de nos chiens. C'était des journées d'un calme extraordinaire. On entendait le bruit des vagues.
C'est donc un extrait de ce texte, Rio de la Plata, qui est inclus dans « Journée d'une rêveuse » que vous interprétez, Marilo Marini, sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris. C'est aussi un spectacle, comme dans ce texte, où derrière la farce, le rire facile, il y a une profonde mélancolie, une solitude, cette femme qui est au milieu d'un parc où s'entassent les morts. On ne sait pas ce que c'est, que ces morts, des morts volants ou des morts terre. Grâce à ce texte de Rio de la Plata, on voit bien d'où vient ce baroque chez Coppi aussi.
Oui, on voit les sources qui ont alimenté son imaginaire et qui étaient très vivants en lui. Je crois aussi que ce texte Rio de la Plata, Coppi était déjà malade quand il l'a écrit. Et bien que jamais il a eu une attitude d'autocommisération pour son état, sinon il était vaillant, il allait au devant la vie et il s'est projeté dans la vie et pas dans la mort, même si la mort est quelque chose qui est très présent chez lui. Je pense aussi que c'est une façon de rédiger, de nous laisser un témoin écrit de sa vie, de son parcours. Et il y a une énorme sincérité, je trouve, dans ce texte. Et justement, à cause de cette sincérité et de cette vérité et de cette densité de vie qui est inscrite dans ces mots, on peut voir d'où cette rêveuse, seule, dans sa maison, entourée de facteurs volants et des cadavres dans son jardin, des choses que, comme elle dit, il n'arrive pas à mourir complètement, donc elle ne peut pas les enterrer. Alors je pense aussi que chez Coppi, il devait avoir des choses qu'il avait vécues, qu'ils étaient là, palpitantes, mais il ne pouvait pas les faire taire complètement, il ne pouvait pas les faire mourir. Et cette palpitation est présente dans son écriture. Et bon, il avait une attitude, comment dire, pas désabusée ni snob, mais il était comme très ironique et avec une certaine distance et toujours avec un sourire un petit peu moqueur, même si les yeux souriaient avec affection. Et on peut voir cette partie plus déchirée de lui. Il y a une mélancolie, mais c'est une mélancolie élégante aussi, je trouve, comme il était lui. C'est pour ça que j'évoque El Greco, parce que il avait cette mélancolie, cette noblesse d'El Greco, même s'il était teinté d'une marginalité très, comment dire, entre les travestismes, la façon de s'adresser au monde qu'il avait, qui n'était pas conventionnel du tout, mais toujours il y avait une colonne vertébrale qui gardait une dignité. Et je crois aussi, maintenant que je vous parle, je crois que c'est aussi ça à voir avec ses ancêtres. C'était une grand-mère indienne qu'il avait. Parce que vous avez vu, les Indiens ont une espèce de dignité, de distance. Ils vous accueillent, ils sont généreux dans leur accueil.
Mais ils gardent une distance,
mais gardent une distance.
Oui, avec l'étranger. Oui.
Et respectueuse, affectueuse, mais il faut le respecter aussi à eux.
Alors cette journée d'une rêveuse mélangée au Rio de la Plata, il y a aussi un troisième effet, une troisième voix dans ce spectacle que vous avez monté au rond-point, Marie-Lou Marini, c'est le piano, parce que vous êtes accompagnée sur scène par un pianiste formidable. Ah. Il s'appelle Laurence Le Hérisset. On a dit que c'était l'arrière-petit-fils de Georges Méliès, un beau pédigré.
Ah oui.
Voilà, mais surtout, cette voix du piano, ce n'est pas un accompagnement, c'est vraiment une voix en plus, parce qu'il intervient, parfois tout seul, parfois il souligne, et parfois il vous contredit. Alors, pour lui donner la parole en vrai, voilà, Perrine Malinge qui nous a rejointe. Bonjour,
bonjour
Perrine.
Bonjour. Oui, Laurence Le Hérisset est un pianiste de formation classique et en tant que digne arrière-petit-fils de Méliès, il a une pratique spécifique à lui, puisque depuis des années, il accompagne au piano les films muets de Georges Méliès. Et en voyant votre spectacle, Marie-Lou Marini, on note une similitude sans doute dans la pratique du boniment, dans cette manière qu'il a de vous accompagner, vous la diva, sur la scène. Sur la scène, il est en cravate, bretelles, là il était tout habillé, mais bien à son poste, au piano, quand je suis arrivée, c'était là où il travaille tous les jours, c'est son bureau, en quelque sorte, une petite pièce. Et sur son piano à queue, noir, trône la partition de La journée d'une rêveuse, votre spectacle, Marie-Lou Marini.
Entrez.
Bonjour.
En répétition, le piano était là et je l'ai regardé travailler. Pierre dirigeait Marie-Lou. Et moi, je leur avais dit, voilà, je vais rentrer la musique, ne vous arrêtez surtout pas. Et on voit ce que ça donne. Voilà, et petit à petit, les choses se sont montées, j'ai commencé à improviser. Petit à petit, la musique s'est montée comme ça. Et puis j'ai calé les choses, j'ai commencé à travailler les improvisations, à composer dessus. Et puis on a laissé des moments aussi d'improvisation qui est encore dans la pièce. Donc là, il y a une première partie où effectivement j'illustre un peu, on peut dire j'illustre le texte de Rio de la Plata où Copi parle des Indiens, de l'Amérique du Sud, de son enfance d'Argentin et d'exilé aussi avec son père, etc. Et là, il y a vraiment un travail d'illustration musicale. Par exemple,
Vous avez le texte là.
Voilà, là... ça m'avait évoqué des grands espaces de ces pays. C'est là toute la magie du théâtre, c'est qu'il faut voir la mise en situation de ça. Elle fait « J'appartiens de la quatrième génération », enfin, une espèce de grandiloquence qui appartient qu'à elle. Hein, Mais elle nous parle de tout ça, et l'évocation de ces grands espaces donne une espèce de contraste complètement délirant. On peut dire qu'on fait un contre-champ, quoi, mais c'est une espèce de dialogue entre le verbe et la musique. Puis là, il y a tout un moment d'improvisation libre où je vais justement, elle me fait une leçon. Alors là, j'apparais vraiment comme un personnage, on dirait un fils qui est au piano, puis elle lui fait la leçon comme ça. Alors moi, je lui réponds en faisant. Voilà, il y a plein de petites interventions. Et donc, il y a des moments où j'illustre ce qui est dit. Il y a des moments où je commente, il y a des moments où je joue avec Marie-Lou musicalement. Et puis il y a des moments où je fais le pianiste. Voilà, j'accompagne une diva complètement excentrique. Et c'est un vrai bonheur de mettre des notes de musique derrière parce que elle a des variations dans les hauteurs, dans les intonations. Elle a deux registres de voix complètement étonnants. Une voix très grave qu'elle arrive à aller chercher. Puis une dynamique formidable.
Et pendant les répétitions, vous avez constaté comment ça a fait bouger son jeu à elle ?
Oui, petit à petit. C'est venu, évidemment, au début, elle avait beaucoup de travail sur le texte. Et puis petit à petit, la musique est venue, est entrée en scène, en fait. Et donc, elle a commencé à jouer avec, à l'entendre. Il y a eu une interaction, il y a eu des moments où je sentais que ça lui plaisait parce que ça lui permettait une émotion autre et ça faisait naître d'autres façons de dire le texte sûrement, puisqu'il y a une interaction très forte à partir du moment où on met de la musique. Je suis assez filou. J'approche d'elle discrètement, musicalement. Je lui fais des petits clins d'œil.
Quelles sont tes notes ? Bravo, très bien !
Et on a voulu aussi que ça s'approche beaucoup de l'acoustique. C'est-à-dire qu'il faut faire extrêmement attention. Moi, j'ai quand même un instrument, qui est un instrument, un piano à queue, qui est puissant. Et Marie-Lou a une voix gigantesque, mais il faut extrêmement... je dois faire vraiment attention à la souligner, à l'accompagner, à jamais déborder, bien entendu. Donc je souligne, j'accompagne, mais de façon théâtrale. C'est ça qui est super.
Marie-Lou Marini, on vient d'entendre Laurence Le Hérisset, mais c'est vrai qu'en l'écoutant à nouveau, je me rends compte à quel point ce spectacle, il est incarné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la voix qui porte le texte, il y a votre corps qui bouge. On sait que la danse a été votre première formation. Il y a le jeu de la musique, il y a la pantomime, le visage qui change aussi, et la voix qui change énormément. Vous avez une voix de diva. Vous avez appris à chanter ?
Non, j'ai pris des cours de chant, bien sûr, pour travailler ma voix, et j'ai osé chanter dans le spectacle, mais j'échauffe ma voix avant chaque spectacle, tout le jour, parce que je suis consciente que j'exige...
Vous passez des aigus au grave, il y a des cris, des murmures.
Voilà, je passe par des facettes de la voix que si je ne fais pas un travail de bar avant de jouer, les pauvres cordes vocales sont knock-out à la fin et ne répondent plus sur le jour suivant. Non, je travaille sur ça et je me rends compte aussi à quel point les auteurs différentes sont nécessaires, en tout cas sont nécessaires pour moi, pour pouvoir transmettre et communiquer aux spectateurs les sentiments ou tous les parcours internes de cette rêveuse et des copies qui racontent. Parce que ce qui m'arrive, c'est que je ne sais pas si c'est moi qui raconte ou c'est Copie qui raconte le texte. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai partagées avec lui, et pas seulement en sa compagnie, sinon par mes circonstances qui étaient très proches des siennes. Et donc, je sais de quoi il parle. Je le sais sans l'avoir étudié. Il y a une connaissance des codes. C'est comme si vous demandez à une jeune fille cubaine comment est-ce qu'on chante les sons. Elle n'a jamais appris à le chanter. Elle le sait. Elle possède ces codes. Et je crois que moi, j'ai vécu les circonstances très proches à celles qui a vécu Copie. Et donc, je comprends. Mais pas intellectuellement. Je comprends le parcours. Et peut-être c'est aussi ça qui demande, d'un point de vue technique, que ma voix soit prête à passer par tous ces états-là et par tous les états qu'il a rêvés pour son personnage, pour Jeanne et Louise. Parce que Jeanne, qui est toute formelle et un personnage,
mais
un contrepoids.
Une double face différente. Mais il y a un moment où les deux se rejoignent, évidemment, dans le tango.
Amore, Yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción de sufrir. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. Lleva en ti todo mi desconsuelo y también mi canción desventil. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir, no me dejes vivir.
Je ressemble à tout le monde.
Je remarquais, chaque jour vous ressemblez à quelqu'un de différent. Vous avez même changé depuis tout à l'heure. Vous avez changé de veste, je crois. Est-ce que vous avez changé de veste?
Ah, la veste est la même, j'ai seulement changé de visage.
Ah, ça vous arrive souvent?
Pas spécialement. Cela m'arrive quand on me parle.
Ah, comme c'est curieux. À chaque fois qu'on vous parle?
Pas à chaque fois, selon la façon dont on me parle.
Je ne pensais pas avoir dit des choses de couleur bleue.
C'est symbolique.
J'en suis confuse.
Il n'y a pas de mal, ce n'est pas douloureux.
J'espère. Comme c'est curieux. Je crois que vous êtes Dieu. N'êtes-vous pas Dieu?
Je ne sais pas.
Moi, je le crois.
C'est possible. Je change très souvent.
J'ai une question délicate à vous poser. Est-ce que je vais mourir ce soir?
Vous avez fait tout le nécessaire?
Tout, c'est beaucoup dire. Mais j'ai fait tout mon possible. Mais ma soupe du matin, mes fiançailles, l'éducation de mon fils... Chaque chose à son heure. J'en aurais fait le double si j'avais eu plus de temps.
Mais ce n'est pas grave.
C'est bien ce que je me disais. Il y a longtemps que vous êtes Dieu.
Je ne sais pas.
Quelle chance. C'est un bon métier.
Marie-Lou Marini, c'est formidable comme faire Dieu, ça va bien à Michael Lansdale.
Ah, mais c'est,
il est fait pour ça.
C'est un rôle pour lui, je
absolument.
Trouve. Il est délicieux, un Dieu.
Avec l'humour de Copy. L'humour de Copy, ben c'est Pierre Maillet qui vous a mis en scène dans ce spectacle,
oui.
Qui dit que Copy, c'était le reflet même de l'esprit de son époque, de l'esprit de la société française de son époque, c'est-à-dire juste après mai 68, le début des années 70. On a un peu oublié la liberté qui régnait à ce moment-là, mais il y a en ce moment à la Maison Rouge à Paris une exposition qui retrace l'esprit de ces années. Et bien sûr, copie y est en majesté, Perrine Malinge.
Oui, c'est Pierre Maillet, lui-même votre metteur en scène, qui m'avait proposé de nous retrouver à la Maison Rouge pour rechercher l'esprit de copie à travers cette exposition. Très belle exposition, l'esprit français qui salue cet esprit de controverse qui a animé les artistes et les penseurs de notre pays du début des années 70 à la fin des années 80, qui se sont terminées avec la fin des idéologies et de grandes personnalités comme Michel Foucault ou Copy. Ce sont des personnalités que Pierre Maillet connaît très bien, qui le fascine. Cette année, il a créé un autre spectacle consacré à Michel Foucault. Donc, nous nous sommes retrouvés à la Maison Rouge en quête de Copy. Je l'ai vite interpellé en arrivant, puisqu'on s'est arrêté devant l'affiche de l'exposition où j'ai cru reconnaître Copy lui-même.
Oui. C'est Copy qui joue dans le frigo, tout seul, avec une multitude de personnages et du coup de déguisements. Et là, il est en doctoresse Freud. Donc,
on laisse imaginer à ceux qui ne connaissent
pas. Voilà, pour ceux qui n'ont pas vu encore la photo, il est en talons aiguilles, en barésie, et puis il a un espèce de haut en cuir avec une moustache à la Freddie Mercury et une casquette en cuir de l'époque. Voilà, c'est la contre-culture. Moi, ce qui me touche énormément avec Copy et qui, selon moi, est très proche d'un esprit français, en tout cas de cette époque, c'est aussi par l'humour que les choses passaient. Il disait préférer les dessins aux bombes, Copy. Donc je trouve ça génial, moi, qu'un Argentin de Paris soit le représentant de la liberté en France.
Grotesque. On avance ?
C'est grotesque.
Allez, on avance. Quelle belle époque, quand même. Ah, Guy Hockenheim.
Avec une citation sur l'esprit français, justement.
La misère ou la force de la folie française, c'est de croire qu'il n'existe aucun autre point de vue possible que celui du nombril.
Je n'ai pas commandé de frigo.
Ben voilà.
Et encore moins un frigo de cette taille.
On est devant il y a tout un mur copie. Donc il y a une vidéo, voilà, de copie dans le frigo.
Ouais, ouais, il est en train de jouer avec son rat. C'est une marionnette, alors il l'a dans le bras.
Je sais que je ne reçois plus à l'heure du thé.
Mais ce qui est fou, c'est l'élégance avec laquelle il jouait. Enfin, c'est souvent plus proche de Bergman que du comique pur. Hein. L'humour chez Copy, c'est de l'élégance, c'est de la pudeur. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est très belle dans Rio de la Plata où il explique qu'il décide d'écrire en français parce que dès qu'il écrit en espagnol, c'est toujours des grands drames. Et que donc la distance qu'il peut avoir avec cette profondeur et cette chose-là, ben forcément ça vient parce qu'il écrit dans sa langue maîtresse et pas dans sa langue maternelle. C'est lui qui dit ça comme ça.
Est-ce que vous êtes élégante aujourd'hui, doctoresse Freud ?
Et quand on le voit, ce petit bonhomme en train de fumer ses clopes, extrêmement discret, extrêmement... poli, il y a une extrême douceur. C'est quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à la violence de ses textes.
C'est le jour de ton anniversaire. Puis-je vous débarrasser de votre turban ?
Je sais pas, je rêve toujours que Copy, il suffisait d'une nappe, donc il pouvait faire toutes ses pièces dans sa cuisine. Et évidemment, ses bandes dessinées qu'il faisait sur des cahiers Clairefontaine, mais aussi quelquefois sur quelques coins de nappe. Il y a un rapport comme ça à l'imagination et à la liberté qui est aussi très simple et qui peut se faire partout.
Tu n'es pas le
il suffit d'avoir l'esprit suffisamment ouvert pour que ça existe.
Ça m'est souvent ramassé dans le calico.
Copy n'arrêtait pas de dire que de jouer sur un plateau, c'est comme de faire le petit dessin. C'est-à-dire que pour lui, on se dessine sur scène. Il dit que c'est la même chose de faire le petit dessin comme ça que de faire le grand geste sur la scène. Et c'est ça aussi qui est très beau chez Copy, c'est qu'il y a, il y a un mélange d'extrême virtuosité comme ça dans l'écriture et dans la pensée. Puis des fois, c'est bon, il y a des phrases où ça pourrait ne pas y être. On alterne en permanence entre le sublime et le bon, voilà, c'est pas grave. Et c'est un esprit. Et en effet, Marie-Lou comprend ça extrêmement bien. Elle y amène une compréhension, enfin une chose où on sait toujours d'où ça part. C'est jamais fou pour être fou. Il n'y a aucune leçon à tirer de Copy. C'était vraiment pas quelqu'un de provocateur, je pense pas. C'était vraiment un poète, c'est-à-dire je pense que c'est quelqu'un qui croyait beaucoup en son art. Et moi, je trouve que c'est la plus belle façon d'être politique, en fait. C'était quelqu'un qui avait aussi un regard sur la marginalité et la différence. Et je pense qu'en effet, c'est par la périphérie qu'on peut questionner le centre. J'adore les artistes qui ont cette qualité-là, qui ne le revendiquent pas. Ils sont comme ça.
Dominique Jamais sur... Attendez, je vous en prie, sur une étrange histoire...
C'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une place pour la contestation, pour le droit à la différence, pour des batailles sociales très fortes. On avait le droit de dire des choses, on avait le droit de se tromper, on avait le droit de dire des... Parce que c'était un esprit, à cette époque, qui était quand même aussi très populaire, enfin, quelque part. Le droit de réponse, c'était sur TF1. Puis quand même, le Nouvel Observateur, c'est pas non plus guépier, quoi. Donc je veux dire, tout le monde pouvait le lire. Le Frigo joue au Théâtre Fontaine. Enfin, c'est quand même, il y a eu une place pour ça. Il y a eu un goût pour ça. Et une défense de ça. La France a peut-être apporté ça à Copy, le moyen de s'exprimer, même si tout était à faire, mais c'était des batailles, des belles à mener, quoi.
L'esprit français contre culture de 1969 à 1989. L'exposition est à Paris à la Maison Rouge jusqu'au 21 mai. Et il y a aussi un très beau catalogue très documenté sous la direction des deux commissaires de l'exposition, Guillaume Desanges et François Piron.
Merci Perrine et j'encourage tout le monde à aller voir cette exposition. D'abord parce qu'elle est très bien, mais en plus parce que la Maison Rouge ferme. Et que vraiment on est triste, que c'était indispensable d'avoir ce lieu avec un regard vraiment curieux et intéressant sur la culture du monde. Ben oui, Marie-Lou, je vois que vous faites la moue, ben oui.
Oui,
on est tous très
tristes.
Oui, mais bon, c'était oui, voilà. Un musée privé et voilà. Il y a des moments où il faut arrêter. Voilà.
Voilà.
En tout cas, cet esprit de la France des années 70, il est encore en ce moment, il souffle au Théâtre du Rond-Point, puisque on peut y voir la journée d'une rêveuse Rio de la Plata avec vous, Marie-Lou Marini. C'est jusqu'au 21 mai à 18h30. Et en juillet, pour ceux qui aiment voyager, ils pourront aller vous voir à Buenos Aires. Voilà, merci à vous beaucoup, Marie-Lou Marini, d'être venue.
Merci, Kathleen. C'est toujours un plaisir d'être chez vous.
Réciproque. Et je signale aussi que ce livre d'Odile Quirot a été édité, donc sur Marie-Lou Marini, a été édité au solitaire intempestif. Merci à vous. Au revoir.
Merci.
C'est fini pour notre dimanche à nous, mais si vous le voulez bien, on se retrouvera dimanche prochain aux environs de 14h. Après les informations de 15h, vous avez rendez-vous avec Fabienne Chauvière et les Saventuriers. Dimanche prochain, je recevrai une autre grande actrice, Dominique Blanc. Merci, bon dimanche sur France Inter.